Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwoo Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwoo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Diaran Diaye.
Bonjour à toutes et à tous. Syphilis, blénorragie, verrues génitales, chlamydia, les infections sexuellement transmissibles, IST, ont de profondes répercussions sur la santé sexuelle et reproductive dans le monde. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chaque jour, plus d'un million de personnes contractent des IST. Elles se transmettent principalement lors de relations sexuelles. Il existe plus de 30 agents infectieux, bactéries, virus ou parasites transmissibles de cette manière. Certaines IST sont répandues dans la population. La plupart d'entre elles se soignent facilement, mais non traitées, elles peuvent entraîner de graves complications. À titre d'exemple, on peut citer le risque de développer un cancer du col de l'utérus à cause de l'infection à papillomavirus humain, ou encore le risque de stérilité imputable principalement à la gonorrhée et à la chlamydiose. Quels sont donc les traitements et les moyens de prévention des IST? Pour en parler, je suis aux côtés du docteur Joanne Norca, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. Bonjour docteur.
Bonjour.
Et nous retrouverons professeur Mohamed Cissé, chef du service dermatologie MST du CHU de Donka en Guinée-Conakry. Il est également vice-président de la SODAF, la Société de Dermatologie d'Afrique francophone. En fin d'émission, Catherine Solano, sexologue, nous parlera de la sexualité durant la grossesse. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bien. Et n'hésitez pas à nous appeler le numéro de Priorité Santé 33 1 80 82 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Joanne Norca, on va parler de ce sujet très important, les IST, les infections sexuellement transmissibles. Rappelez-nous, quelles sont les principales IST?
Alors, les principales IST, notamment sur le plan viral, sont le VIH, l'hépatite B, l'herpès virus et le papillomavirus. Et pour les autres, on a donc la syphilis, le chlamydia, le gonocoque et la trichomonose.
On va revenir en détail sur ces maladies. D'ailleurs, on parlait de MST avant, maintenant on parle plutôt d'IST. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce purement de la sémantique ?
C'est purement de la sémantique, il n'y a pas de différence entre les...
IST, MST, voilà. Donc refermons la parenthèse, c'était juste une petite précision. Docteur Norca, on sait que ces IST sont en forte hausse. Quelles infections sexuellement transmissibles augmentent particulièrement aujourd'hui ?
Alors, les infections en fait les plus fréquentes actuellement sont l'herpès génital et le papillomavirus, mais il y a quand même aussi une grosse augmentation de la syphilis qui revient en force.
Elle avait disparu, rappelons-le.
Ouais, elle avait disparu et elle revient en force dans toute la population, mais essentiellement pour les hommes et en des relations avec les hommes, et aussi le gonocoque.
Et pourquoi on assiste à une augmentation de ces IST? Est-ce qu'on comprend un peu leur recrudescence? Est-ce dû finalement au relâchement? Ou alors, bon, la syphilis par exemple avait disparu, pour qu'elle réapparaisse, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part?
C'est probablement au niveau de la prévention. Donc, probablement qu'au niveau notamment de l'usage du préservatif, il y a dû avoir un relâchement. Et je pense qu'il est important en fait d'insister aujourd'hui sur les moyens de prévention. Donc avec effectivement le préservatif, et après pour les autres IST, on peut effectivement donc avoir donc le vaccin pour l'hépatite B, le vaccin pour le papillomavirus, et puis actuellement pour le VIH, il y a cette prophylaxie pré-exposition. Mais je pense que vraiment c'est important d'insister sur l'utilisation du préservatif.
Et qui sont les populations les plus touchées par ces IST? Est-ce que c'est tout le monde finalement?
C'est tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que tout le monde doit se protéger. Alors, effectivement, il y a quand même des populations qui sont plus à risque. Donc, en fait, les jeunes, les jeunes qui débutent en fait leur activité sexuelle sont à risque. Les hommes ayant des relations avec des hommes, effectivement, sont aussi une population à risque. Et puis, on a aussi, en fait, notamment nous, à Saint-Denis, une population, on va dire, migrante. Donc, notamment, en fait, les personnes, en fait, d'origine étrangère sont aussi des populations à risque parce qu'elles n'ont malheureusement pas eu aussi de moyens de dépistage et elles ne se savent pas porteuses, en fait, de ces infections sexuellement transmises.
Et est-ce qu'il y a des IST plus courantes, par exemple, chez les seniors ou chez les jeunes?
Alors, bonne question. J'aurais pas de chiffres exacts, mais ce que je pense, c'est que clairement, les infections à gonocoque et chlamydia sont clairement en fait des infections qui sont vraiment très fréquentes chez les justement en fait chez les gens qui les jeunes qui commencent leur activité sexuelle. Mm-hmm. Après, chez les seniors, je pense que est-ce que du coup, à un nouveau cap de sa vie, on réexpérimente une vie sexuelle autre et qu'on oublie en fait de se protéger, j'en sais rien. Mais je pense qu'après les seniors sont exposés de toute façon à toutes les infections sexuellement transmises.
Et on pourrait peut-être rappeler quelles sont les conséquences pour la santé si le patient n'est pas traité. On va prendre l'exemple de la chlamydiose qui touche 131 millions de personnes dans le monde selon l'OMS.
Alors oui, le chlamydia c'est quand même l'une des infections les plus transmises en France. On dit à peu près que 9000 nouvelles personnes s'infectent au chlamydia chaque année.
On pourrait peut-être rappeler d'ailleurs, c'est quoi finalement cette chlamydia?
C'est une bactérie. C'est une bactérie qui se transmet effectivement donc par voie sexuelle. Le problème, c'est qu'en fait, l'infection à chlamydia, c'est une infection qui, on dit, nous, post-symptomatique. Ça veut dire en fait qu'elle est quasiment asymptomatique. En clair, le patient n'a pas de symptômes. Donc, chez les femmes, elles peuvent consulter pour des douleurs, mais qui sont banales. On peut avoir des pertes banales. On peut avoir des petits saignements. Mais tout ça, c'est des signes, en fait, qui sont, on va dire, qui ne sont pas, qui sont très fréquents et donc auxquels on peut ne pas porter attention. Et en fait, on peut réellement développer une réelle chlamydiose. Et donc, le chlamydia, ce qui peut avoir, en fait, comme complications ou effets secondaires, enfin, comme complications, c'est notamment une atteinte des trompes. Et entraîner donc une atteinte des trompes qui en altère leur fonctionnement et diminuer la fertilité.
Et justement, on parlait des signes, on vient de dire qu'ils sont peu visibles, voire absents. La transmission peut donc se faire à l'insu des personnes infectées. Comment savoir si on est porteur d'une infection sexuellement transmissible ou qu'on fait face simplement à une infection vaginale, par exemple?
Il faut consulter. Il faut consulter donc un médecin généraliste, mieux un gynécologue ou une sage-femme, afin de réaliser en fait donc des prélèvements. Ce qui est actuellement le plus va être insensible, ce sont des prélèvements en fait vaginaux et en fait qui recherchent de façon spécifique le chlamydia, le gonocoque et aussi les autres infections sexuellement transmises. Après, bien sûr, il y a les sérologies pour les autres. Donc la sérologie VIH, l'hépatite B, voilà.
Il y a beaucoup d'idées reçues autour de cette transmission des IST. Est-ce qu'on peut rappeler comment on peut attraper des IST? On le dit clairement.
Eh bien, ce sont lors des rapports. On sait, lors des rapports sexuels, on sait que notamment pour le virus, le papillomavirus, juste en fait le frottement des deux cornues, on peut en fait comme ça échanger ou attraper en fait ce genre de virus.
Donc sans pénétration.
Sans
là.
Pénétration. Le papillomavirus peut se transmettre sans pénétration. Maintenant, en fait, pour les autres, donc c'est plutôt donc lors de la pénétration, et c'est des rapports qui peuvent être vaginaux, mais orogénitaux donc, également. Ou des rapports, effectivement, donc, en rapport avec l'anus.
Donc, il y a en fait beaucoup de personnes qui pensent encore que la sexualité orale est sans risque d'infection sexuellement transmissible. C'est une erreur,
c'est
en fait.
C'est une erreur.
Il y a une trentaine de bactéries, virus et parasites qui se transmettent sexuellement. Là encore, est-ce qu'on peut rappeler les risques encourus et peut-être rappeler les précautions, finalement, à prendre?
Mais les précautions, encore une fois, ça reste, du coup, la prévention avec le port du préservatif. Et les risques, encore une fois, c'est de développer en fait, donc d'attraper en fait, de s'affecter à ces maladies qui en fait entraînent peu de signes, et notamment en fait du coup, donc pour le VIH, c'est quand même une maladie qui est grave, hein, puisque du coup il y a une atteinte en fait de plusieurs organes avec une immunodéficience. Donc en fait non seulement on est porteur en fait de ce virus, et à cause du fait que ce virus attaque l'immunité, donc nous rend plus faible, on peut en fait s'exposer à d'autres maladies qui vont vraiment altérer notre santé.
En parlant du port de préservatif que vous venez de mentionner à l'instant, pourquoi on a une question de Wilfried de Dakar au Sénégal. Il nous a interpellé sur notre page Facebook. Il demande pourquoi est-il fréquent que les préservatifs éclatent? Est-ce la qualité qui est mauvaise ou la manière de le mettre? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Alors, je pense que c'est probablement, en fait, pour ces deux raisons. Hein. Je pense qu'il est important d'utiliser des préservatifs, en fait, de qualité, en fait, bonne. Pour ça, normalement, les préservatifs, ils ont, en fait, il y a un sigle qui stipule, en fait, que c'est une... Je crois que c'est NF.
NF ou CE.
Ouais. Ou donc, du coup, en fait, là, on peut s'assurer qu'ils sont de bonne qualité. Et après, la manière de les mettre, mais du coup...
Ouais, du coup, on peut pas leur expliquer,
pas expliquer comme, là, ça,
comme ça,
à la
mais
radio.
Bien suivre le mode d'emploi,
oui,
peut-être.
Oui, oui.
Et du coup, ça, après un rapport risqué, un rapport non protégé ou un préservatif rompu, par exemple, que faut-il faire d'urgence?
D'urgence, il faut consulter. Puisque on peut en fait justement avoir en fait notamment au niveau du VIH donc un traitement à prendre après l'exposition donc après le rapport à risque et après donc pour une femme on peut une femme ou un homme d'ailleurs hein, donner en fait les traitements appropriés donc il faut consulter d'urgence un médecin.
Et quand un couple veut arrêter l'utilisation des préservatifs, quelles précautions il faut prendre au préalable?
Alors au préalable, il faut effectivement réaliser les sérologies. Et effectivement donc des prélèvements donc les sérologies donc pour les virus on l'a déjà dit mais je vais le répéter donc la sérologie pour le VIH pour l'hépatite B pour l'herpès effectivement on n'est pas obligé de faire de sérologie mais bon on pourrait
par
toujours
précaution.
Le faire par précaution et pour le papillomavirus du coup il y a pas de on fait pas de sérologie à ma connaissance parce que le papillomavirus c'est une infection qui est extrêmement fréquente. Et puis après, pour les autres, donc le gonocoque, le chlamydia, la syphilis, effectivement, on peut faire la sérologie. Et pour les autres infections, donc ce sont des prélèvements vraiment, on va dire, locaux, donc au niveau notamment vaginal.
On a des questions justement autour de la syphilis. Tout de suite, on va prendre les auditeurs en ligne.
RFI.
Achille est en ligne avec nous en direct de Priorité Santé. Il nous appelle du Burkina Faso. Achille, bonjour.
Oui, bonjour.
Achille, on vous écoute.
Bonjour au docteur.
Bonjour.
Ma question est relative à la syphilis.
Je vous écoute.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Voilà, bon. Après contraction de la syphilis, et après un traitement, et les deux tests de contrôle VDRL et puis TPHA, une personne a un VDRL négatif.
Alors, on n'entend pas très bien.
Une personne qui a un VDRL négatif.
Oui.
Et un TPHA positif.
Oui.
Est-ce que cette personne est toujours malade?
Alors, la connexion est vraiment très mauvaise. Je vais me permettre juste de répéter la question d'Achille. Donc, il a été atteint de la syphilis en 2014, nous a-t-il dit. Il a été traité avec des injections. Il a fait des tests de contrôle. Ce sont les tests sérodiagnostiques de la syphilis, les tests VDRL et le test TPHA. Ah, voilà. Ouais. Alors, on va rappeler déjà c'est quoi ces tests-là et puis revenir un petit peu sur cette syphilis. Et lui demande... est-ce qu'il est possible qu'il soit toujours porteur de la syphilis et est-ce qu'il peut transmettre la maladie? Alors, il y a plusieurs points très importants dans ton cas. On va commencer par dire qu'est-ce que c'est que cette syphilis qui, rappelons-le, est en augmentation.
Ouais, donc la syphilis, effectivement, donc, fait partie des infections sexuellement transmises. Le germe en question s'appelle Treponème pallidum. Bon, peu importe. Pour le diagnostic, donc c'est une sérologie et effectivement, ce sont les deux tests qui sont réalisés, donc le VDRL et le TPHA. De toutes les façons, l'analyse en fait des résultats doit être faite par un médecin, puisque du coup c'est quand même un petit peu complexe. Effectivement, si les deux tests sont positifs, on peut dire effectivement qu'il y a une syphilis, mais on sait aussi que du coup le test VDRL peut être positif dans d'autres situations que la syphilis. Et normalement, effectivement, si le VDRL est négatif et que le TPHA est positif, ça c'est une syphilis. Ce qui est important, je pense, de toutes les façons, c'est de savoir, j'imagine que vous avez consulté un médecin, et que vous a dit le médecin?
Achille, vous êtes toujours en ligne avec nous? Non, mais bon, en tout cas, Achille, voilà. Achille, est-ce que vous pouvez répondre à la question du docteur Norka, qui est?
Du coup, les sérologies vous ont été prescrites par un médecin, et donc vous devez avoir un suivi par un médecin. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bon, le médecin m'a dit de continuer à faire le contrôle. Allô?
Oui, oui. D'accord.
Voilà, il m'a dit de continuer à faire le contrôle, mais il ne m'a pas proposé un autre traitement.
D'accord. Bon, du coup, est-ce qu'on pourrait répondre à la question d'Achille qui demande est-ce qu'il est toujours porteur de la syphilis?
Normalement, en fait, du coup, le test devrait se négativer. Donc, je pense qu'en fait, du coup, il faut vraiment refaire le point avec votre médecin pour revoir, en fait, le traitement et ce qu'on peut vous proposer. Normalement, la syphilis est censée être traitée, effectivement, de façon très simple par la pénicilline.
Une autre question très importante d'Achille, est-ce qu'il peut toujours transmettre la maladie?
Ben, a priori, oui, mais je pense que vraiment, il faut qu'il refasse le point avec le médecin.
D'accord, entendu. Alors, Achille, vous avez entendu le docteur Norka, reconsulter un médecin, ouais. Voilà, serait bien plus important pour vous. Merci à vous, Achille. On va prendre un autre auditeur en ligne, Cher, qui nous appelle de Bamako, au Mali. Cher, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Cher.
Alors, ma question est la suivante. Moi, j'aimerais savoir si les préliminaires peuvent provoquer les infections IST. Est-ce que doit-il soucier? Ça, c'était une première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a une possibilité de prévention et d'éviter à la virus IST? Étant donné que quand moi, j'utilise des préservatifs, je ne me sens pas bien après l'amour.
Alors, vous ne vous sentez pas bien, c'est-à-dire, Cher?
Le désir. Quand j'utilise le préservatif, en fait, je n'ai pas trop de désir avec ça.
D'accord. Alors, il a posé une question quand même intéressante. Durant les préliminaires, est-ce qu'il y a risque d'infection sexuellement transmissible, docteur?
Oui, il y a des risques. Donc, comme on l'a déjà dit, juste le frottement des deux cornues peut y avoir donc en fait une transmission du papillomavirus responsable des condylomes et notamment aussi des condylomes entre autres. Et on l'a encore déjà dit, je pense tout à l'heure. C'est important en fait de bien comprendre que les rapports orogénitaux sont aussi en fait donc à risque de transmission.
Et Cher avait une autre question, il demande si le préservatif est le seul moyen pour éviter les IST.
Alors, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est quand même le moyen le plus facilement accessible et quand même qui est très efficace. Alors, je ne sais pas à quel type d'IST il pense en l'occurrence, de façon précise.
Cher?
Oui.
Oui, vous nous entendez? Est-ce que le docteur Norka vous a posé une question? Est-ce que vous savez de quel IST vous parlez précisément?
Quand vous dites que du
coup... IST sexuel.
Bon, toutes les IST, c'est pas forcément, voilà. Mais en tout cas, oui, bon. Oui, en tout cas, il y a un risque d'infection sexuellement transmissible. On va juste compléter avec docteur Catherine Solano qui voulait justement réagir à cette question.
Oui, je voulais dire, ce qui prévient le mieux les infections sexuellement transmissibles, c'est l'abstinence sexuelle, ça c'est évident. En deuxième, c'est quand même aussi la fidélité dans le couple, parce que si jamais vous avez deux partenaires qui n'ont pas d'IST, même s'ils font l'amour sans préservatif, sans rien, ils pourront rien se transmettre. C'est seulement s'ils ont des relations extra-conjugales ou en dehors de leur couple qui vont pouvoir aller attraper un virus ou une bactérie. Et du coup, c'est vrai que ce qui provoque l'explosion aussi des IST, c'est la multiplication des partenaires. Donc voilà, ça c'est quand même important de le dire aussi parce que le préservatif c'est une chose, mais il y a aussi les pratiques sexuelles en fait.
Alors, Cher, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions?
Oui.
Merci à vous et bonne journée au Mali. Nous rejoignons professeur Mohamed Cissé, chef du service dermatologique MST du CHU de Donka en Guinée-Conakry. Il est également vice-président de la SODAF, qui est la Société de Dermatologie d'Afrique francophone. Bonjour professeur Mohamed Cissé.
Bonjour Madame Diaye, bonjour Docteur Norka.
Bonjour.
Alors professeur Cissé, dites-nous, quelles sont les principales IST que vous rencontrez en Guinée?
Alors, vous savez, dans les pays à ressources limitées, en général, les IST ne sont pas pris en charge dans le cadre étiologique. C'est-à-dire dire que c'est la syphilis, c'est la gonococcie, ce sont les herpès, mais dans le cadre syndromique. Nous faisons donc la prise en charge syndromique. Donc aujourd'hui, dans notre pays, l'IST qui est rencontré couramment, ce sont les écoulements vaginaux chez les femmes. Après l'écoulement vaginal chez les femmes, on a également l'écoulement urétral chez l'homme.
Et est-ce que les patients viennent vous voir à temps, justement, concernant ces écoulements vaginaux, professeur?
Alors, c'est un problème parce que pour nous, en général, chez nous ici, en Afrique, les IST sont considérés comme un tabou. Les gens ne veulent pas en parler. Ils préfèrent, dans la grande majorité des cas, aller voir un pharmacien, acheter un médicament, ou aller voir l'étalagiste du quartier qui vend des médicaments et essayer de faire l'automédication. En général, c'est quand c'est compliqué qu'ils arrivent dans nos structures de santé.
Expliquez-nous, professeur, les dangers justement de cette automédication.
Alors, les dangers de cette automédication, la première chose, c'est que les gens sont maltraités. Quand je prends par exemple la syphilis, une personne a une ulcération, on ne sait pas de quoi il s'agit. On lui donne un antibiotique qui ne peut pas traiter cette ulcération, probablement une syphilis, on décapite cette syphilis. Au lieu que cette syphilis reste à son stade primaire, on va passer au stade secondaire et au stade tertiaire avec des complications graves, qui sont des complications neurologiques, des complications cardiologiques qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital des patients. Mais aussi, lorsque cette automédication elle est faite dans la grande majorité des cas, par exemple chez les femmes, les IST, le traitement qui est pris n'arrive pas à éradiquer l'IST, on se retrouve dans une situation de complications telles que l'infertilité, telles que justement des salpingites chez les femmes ou bien des grossesses extra-utérines qui sont les conséquences justement des troubles qui sont survenus au niveau des trompes.
Et le traitement des infections dont on parle est très sournois. Comment vous traitez généralement les IST, professeur?
Alors, dans nos structures de santé, il y a des algorithmes qui sont disponibles. Sur la base donc des signes qui amènent le patient à venir consulter dans nos structures de santé, les agents de santé utilisent ces algorithmes. Par exemple, un patient qui arrive pour une ulcération génitale, on lui donne des antibiotiques permettant de prendre en charge la plupart des ulcérations génitales. Il va s'agir de la syphilis, il va s'agir de l'adénovanose, il peut s'agir donc du chancre mou, il peut s'agir aussi de l'herpès génital. Donc, ce sont en général des traitements minutes qu'on donne à ces patients pour pouvoir couvrir. Parce que si vous laissez le patient partir pour qu'il parte faire des examens, en général, ils ne reviennent pas dans la structure de santé. Donc, ils préfèrent aller dans une pharmacie ou voir un tablier, acheter un médicament, essayer de se soigner.
Et est-ce que vous êtes confronté à des difficultés au niveau du diagnostic?
Bien sûr, nous sommes confrontés à des difficultés parce que, en général, nous ne faisons pas de diagnostic étiologique, comme j'ai dit tout à l'heure là. Nous faisons la prise en charge syndromique et souvent, donc, la prise en charge syndromique aussi, dans certaines situations, ne vous permet pas, justement, de donner le traitement approprié.
Professeur, on va prendre justement un auditeur en ligne, Benjamin, qui nous appelle du Togo. J'aimerais que vous réagissiez à son témoignage. Benjamin, bonjour.
Bonjour, madame.
Benjamin, on vous écoute.
D'accord. Je disais que en 2016, en mai 2016, j'ai contracté une IST et les symptômes étaient là. Pourtant, ça me causait des démangeaisons et j'avais des brûlures quand je faisais pipi. Et comme ça me chatouille, quoi, quelque chose comme ça. Mais dès les premiers signes, je n'ai pas été à l'hôpital. Après quelques potions que j'ai prises chez les thérapeutes, je suis parti à l'hôpital. Et on m'a pas fait d'abord un test, on m'a prescrit des choses à prendre et une injection. Après, les mêmes symptômes sont revenus. Je suis reparti, on m'a fait des tests, mais rien. On m'a fait des tests pour la syphilis, on m'a fait des CDI, j'ai allé même faire l'hépatite B. La fièvre du typhoïde et le VIH, tout ça n'a rien. Je m'inquiète, je ne sais pas. Je pose la question de savoir si on peut guérir complètement du IST. Comment se prendre maintenant pour ne pas retenter dans les mêmes détruits?
Juste une question, Benjamin, peut-être pour une précision. On ne vous a diagnostiqué pour aucune IST, mais vous avez eu des démangeaisons et des plaies et vous avez consulté un médecin. C'est bien ça?
Oui.
professeur Mohamed Cissé. On vient d'entendre Benjamin qui nous a expliqué des symptômes, en tout cas autour de son pénis, des boutons, des plaies, des démangeaisons. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe avec Benjamin?
Alors, en général, face à de telles situations, a priori, on pense à une ulcération génitale, comme j'ai expliqué tout à l'heure là. Et cette ulcération génitale va être traitée pour pouvoir prendre en charge toutes les étiologies responsables d'ulcération génitale. Alors, il peut s'agir donc de la syphilis, il peut s'agir de l'herpès, il peut s'agir aussi d'autres ulcérations génitales telles que la donovanose, telles que la lymphogranulomatose vénérienne. Donc, face à cette situation, il y a des antibiotiques qui sont donnés, par exemple la benzathine pénicilline, connue sous le nom de l'exanciline, qui a donné une seule injection. Dans le cas de la prise en charge syndromique, on va donner des médicaments pour pouvoir prendre en charge également l'herpès génital et on donnera d'autres antibiotiques tels que la doxycycline qui va justement agir sur d'autres germes responsables d'ulcération génitale tels que la lymphogranulomatose vénérienne. Mais je voudrais préciser par rapport à sa question que lorsqu'on contracte une IST, lorsqu'on est traité correctement, on guérit de l'IST. Alors, pour éviter que l'IST revienne, mon collègue l'expliquait très bien tout à l'heure là, il faut utiliser le préservatif, c'est extrêmement important. Lorsqu'on utilise le préservatif et qu'on fait soigner son ou sa partenaire, on arrive justement à éviter les récidives de l'IST.
Merci pour votre appel, Benjamin. Vous nous avez appelé de Cara au Togo. Bonjour d'ailleurs à nos auditeurs togolais. Professeur Mohamed Cissé, on parlait justement du port de préservatif. Est-ce que les Guinéens ont compris son importance?
Alors, oui, les gens utilisent de plus en plus le préservatif. C'est vrai que notre objectif, nous ne l'avons pas encore atteint parce que le taux d'utilisation, selon les études qui ont été réalisées, tourne autour de 60%. Mais notre souhait est que, avec tout ce que nous faisons comme campagne de sensibilisation, que nous arrivons à un taux plus élevé. Mais l'autre problème en général, ce sont les hommes en général qui utilisent les préservatifs. Et les préservatifs, par exemple, féminins ne sont pas encore disponibles. Même si c'est disponible, ce n'est pas utilisé par les femmes parce que l'utilisation, elle est beaucoup plus complexe que le préservatif masculin. Et donc, ça nécessite donc des informations importantes pour que les femmes soient à mesure d'utiliser le préservatif féminin.
Et dans ce contexte, quels sont les moyens de prévention que vous utilisez en Guinée?
Alors, les moyens de prévention, c'est surtout la sensibilisation, c'est dire aux gens, lorsque vous avez contracté une IST, il faut vous rendre très rapidement dans une structure de santé pour que vous soyez pris en charge de façon correcte. Il faut respecter le traitement parce que parfois aussi, c'est vrai que ce sont des traitements minutes qu'on donne dans le cas de la prise en charge syndromique, mais malgré ça, il y a certains patients qui ne respectent pas le traitement. Il faut aussi essayer d'informer votre partenaire parce que les IST se contractent à deux et doivent être traités à deux. Il faut aussi éviter l'automédication, comme je le disais tout à l'heure là. Souvent, le traitement n'est pas fait à bon escient et cela peut entraîner des complications. Et aussi, on informe les patients en leur disant il ne faut plus faire de rapport sexuel tant que vous n'avez pas fini de traiter votre IST, à moins que vous n'utilisez un préservatif. Donc voilà, ce sont ces mots que nous utilisons dans nos structures de santé pour pouvoir sensibiliser les patients que nous recevons pour les IST.
Professeur Mohamed Cissé, un dernier mot, peut-être un message à faire passer à nos auditeurs?
Alors, je dirais simplement que, je le disais tout à l'heure, les IST ont des complications grave. Et donc, le mieux, il faut les prévenir. Et la meilleure façon de prévenir, c'est l'utilisation de préservatifs.
Merci beaucoup, professeur Mohamed Cissé. Je rappelle que vous êtes chef du service de dermatologie MST du CHU de Donka en Guinée-Conakry. Vous êtes aussi le vice-président de la SODAF, la Société de Dermatologie d'Afrique francophone.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
On a toujours en ligne, Mamadou qui nous appelle de Guinée-Conakry. Mamadou, bonjour.
Bonjour madame.
Mamadou, on vous écoute.
Bon, j'ai une petite difficulté, c'est à propos de l'infection. En 2016, j'ai été atteint par l'infection en 2016. Bon, je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments, on m'a dit que j'avais la syphilis là. Bon, on m'avait prescrit 4 produits, c'est en injection, on prend chaque semaine, on prend un produit, chaque semaine, on prend un produit, ça c'est pour un mois. Bon, j'avais suivi Là, le traitement, j'ai pris les produits. On m'avait dit de ne pas faire des relations avec ma partenaire sans se protéger ou bien on fait le même traitement ensemble. Quoi. Si j'aimerais le faire, quoi. Si j'aimerais faire une relation avec ma partenaire. Maintenant, après ça, j'ai violé ce que le docteur m'a dit. J'ai violé le principe. Bon, toujours la même maladie, ça s'est retourné sur moi encore. Quoi. La même maladie s'est retournée sur moi. Le traitement n'était pas passé. Je suis venu ici. Ça, c'était au village. Je suis venu à Conakry. On m'a donné des produits en comprimé. Six comprimés, j'ai pris le produit là. Ça n'a toujours pas marché. Après ça, je commence à avoir d'autres problèmes aussi encore qui sont la plaie au niveau de mon sexe. Et puis, il y a aussi mes testicules qui sont. Un de mes testicules qui est gonflé. C'est toujours gonflé. Ça me fait très mal aussi encore. Ça me fait très mal. Tout récemment là, je viens de faire le traitement encore. Tout récemment là, on m'a prescrit un produit qui est le nom de. Augmentin, je ne maîtrise pas le nom du produit, mais c'est Augmentin, je viens de le prendre, mais ça ne marche pas toujours encore, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire quoi, pour ça.
Docteur Norka, décidément, la syphilis pose beaucoup de questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à Mamadou qui est atteint de cette maladie depuis 2016? Je ne sais pas trop s'il est encore, s'il est guéri, s'il n'est pas guéri. Qu'est-ce qu'il doit faire?
C'est difficile de donner en fait des conseils à la radio, mais je pense que ce que vous avez déjà fait c'est bien. Mais je pense qu'il faut reconsulter. C'est probablement ce que vous avez déjà fait et que du coup, il faut vraiment qu'il refasse des prélèvements parce que vous avez parlé d'à nouveau en fait une ulcération, une plaie au niveau du sexe, parce que normalement la syphilis en fait lorsqu'elle évolue, le chancre en fait qui est normalement la plaie au niveau du sexe ne revient pas, elle évolue en fait vers d'autres stades. Donc est-ce que vraiment il s'agit encore de la syphilis et pas d'une autre infection? Donc je pense c'est peut-être important de reconsulter. Je crois que vous l'avez déjà fait et peut-être qu'il fasse vraiment refaire des prélèvements vraiment au niveau de la zone où il y avait cette plaie pour savoir ce que c'est.
Mamadou, vous avez d'autres questions?
Bon, j'avais d'autres questions encore quoi. Toujours la même maladie au niveau de mes reins, ça me fait mal quoi. Avant ça me faisait pas mal, mais actuellement je sais pas si c'est la même maladie qui vient jusqu'au niveau de mes reins qui me font mal quoi. Ça me fait très mal.
Il faut reconsulter un médecin. Je peux effectivement pas vous répondre à la radio. Je pense que clairement le message c'est de reconsulter un médecin et pouvoir faire des examens pour savoir ce qu'il en est.
En tout cas, Mamadou, le message est clair. Allez de suite consulter votre médecin. Merci en tout cas de nous avoir appelé en direct de Conakry. On a en ligne Sorel qui nous appelle du Cameroun.
Oui, allô?
Sorel, bonjour.
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 Sorel, vous avez la parole.
Ok, merci. En fait, mon problème, c'est par rapport aux IST et la grossesse. J'aimerais savoir si après, dans le futur, ces problèmes ne peuvent pas causer des problèmes à l'enfant.
Alors oui, vous pensez à quoi exactement comme infection?
Par exemple... La gonococcie et la syphilis.
Alors, du coup...
Très bonne question. Ouais, justement, ces IST ont des risques sur les enfants lors d'une grossesse?
Ouais. Alors déjà, c'est sûr que normalement, donc, si l'infection a été dépistée et donc diagnostiquée, elle doit être traitée, comme toutes les infections. Donc encore plus pendant une grossesse, parce qu'il y a un risque effectivement de transmission au fœtus, donc après au bébé à naître. Et en fait, ce bébé, du coup, il doit être pris en charge. Donc, notamment, le pédiatre qui doit suivre, en fait, cet enfant doit savoir, en fait, qu'il y avait une infection à syphilis et pouvoir réaliser des examens et éventuellement, en fait, traiter le bébé s'il y a besoin. Donc, vous, ça a été votre cas?
Oui.
D'accord. Donc, votre bébé a dû voir un pédiatre?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il en est?
En fait, il m'a dit qu'il n'y a rien d'anormal, que le bébé se porte bien. Mais je me suis traitée au début de la grossesse, donc j'aimerais vraiment savoir si entre-temps, il n'y aura pas de problème, plutôt dans le futur. Parce que pour l'instant, on dit que l'enfant se porte bien.
D'accord, mais il a dû peut-être avoir, en fait, normalement, on doit faire des prélèvements, il a dû avoir, il y a eu des examens qui ont été faits pour le bébé?
Oui.
Donc, le médecin, en fait, s'est basé sur des examens pour dire que le bébé allait bien.
Oui.
Donc, vous pouvez être rassuré dans ces cas-là.
Ah.
Parce qu'en fait, il n'y a pas... Il y a pas force, il y a pas de transmission systématique. Il y a un risque de transmission, mais si vous êtes traité, en fait, ce risque de transmission, il est faible. Donc, c'est pas parce qu'on a une infection, en fait, notamment pour la syphilis, il y a un risque de transmission au bébé, mais ce risque de transmission, il n'est pas systématique. Donc, si vous avez un traitement, vous diminuez ce risque de transmission. C'est pour ça que, du coup, à la naissance, les bébés sont examinés, ils ont des prélèvements pour pouvoir savoir ce qu'il en est.
Ah, ok.
Vous êtes rassurée, Sorel?
Oui, je suis rassurée.
Merci beaucoup. Alors, Docteur Joanne Norca, on a une question que je lis sur notre page Facebook. Thomas du Cameroun demande s'il est nécessaire d'effectuer des examens d'urine et radiologiques en cas de chlamydia. Comment est diagnostiqué le chlamydia?
Alors le chlamydia, on peut effectivement faire un diagnostic sur les urines. Donc en fait, c'est une technique de PCR, en fait une technique diagnostique, on va dire, extrêmement sensible. Sur les urines, mais on peut aussi le plus fréquemment faire un diagnostic, en tout cas pour la femme, un diagnostic vaginal. Maintenant, diagnostic radiologique.
Voilà, c'est pour un homme, Thomas, est-ce que, ou alors peut-être qu'il pose la question pour
Normalement, on fait pas de diagnostic radiologique, en fait, du chlamydia. C'est des prélèvements, donc soit un prélèvement d'urine pour l'homme et pour la femme, ou un prélèvement vaginal pour la femme.
Entendu. Catherine Solano, je vais profiter de votre présence puisque Abiboula du Togo nous a laissé un message et lui demande à quel moment des préliminaires il faut porter le préservatif.
Alors, il faut les porter avant la pénétration. C'est hyper important parce que je compte plus le nombre de personnes qui me disent on fait une pénétration vaginale sans préservatif, quelques va-et-vient, et quand je sens que l'éjaculation va arriver, je m'en retire, je mets le préservatif et je rentre à nouveau dans le vagin. Ça, c'est une pratique à très haut risque pour les infections sexuellement transmissibles. Donc, il faut vraiment mettre le préservatif avant la pénétration. Et je dirais même que pour le sexe oral, pour la fellation, on conseille fortement de mettre un préservatif parce qu'il y a quand même aussi des risques de transmission. Même si pour le VIH c'est plus faible, il existe quand même le risque de transmission.
J'espère que Abiboula nous écoute en tout cas en direct du Togo. Catherine, une autre question. On a entendu parler des partenaires justement. Voilà, prévenir son partenaire lors d'infections sexuellement transmissibles, c'est difficile d'en parler.
Oui, c'est difficile et justement, je vais dire une chose, c'est qu'on dit... quand on veut se passer du préservatif, on en a parlé, il faut faire des tests. Mais j'ajouterai une chose, il faut faire des tests et demander à son partenaire ou sa partenaire de vous montrer le résultat. Parce que c'est pareil, moi je vois beaucoup de couples où quelqu'un dit « bah oui, j'ai fait mes tests, tout est normal », mais la partenaire les a pas vus, en fait c'était pas forcément vrai. Soit il avait pas fait les tests, soit le résultat n'était pas normal, et donc il faut vraiment se les montrer à deux. L'idéal, je trouve, c'est quand on est en couple et qu'on veut arrêter le préservatif, c'est d'aller consulter en même temps et de faire ses tests en même temps.
Docteur Norca, la question des partenaires est très importante. On doit alerter et soigner les deux partenaires, du coup même s'il y en a trois aussi, voilà. Mais il y a beaucoup de tabous autour de la sexualité. Est-ce que vous avez constaté une évolution à ce sujet?
Alors, du fait de mon grand âge, non. Mais je pense que ça reste encore vraiment tabou, notamment c'est vrai que ça doit être très compliqué de devoir en cas de diagnostic d'infection sexuellement transmissible, de devoir l'annoncer à son partenaire et de dire non seulement effectivement moi je suis porteuse de telle ou telle maladie et donc moi je dois me faire traiter, mais toi aussi tu dois te faire traiter. Ça doit pas être évident, mais malheureusement sans ça, sans ce traitement en fait des partenaires, on ne peut pas en fait avancer.
Oui, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a une chose peut-être importante à dire, c'est qu'il n'y a aucune honte à avoir une infection sexuellement transmissible. Presque tous les adultes sur la planète ont des rapports sexuels. Il suffit d'un seul rapport sexuel pour contracter une IST. Ça peut arriver à tout le monde. C'est comme une angine ou quelque chose. Même si c'est par la sexualité, je veux dire, c'est banal, en fait.
Mais facile pour tout le monde, en tout cas, d'en parler.
Non, c'est pas une honte.
En tout cas, il faut le dire, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Avoir une IST, ça se soigne. Et par précaution, il faut prévenir son ou ses partenaires. Parlons de la prévention, docteur Norca. Quels acteurs peuvent jouer un rôle dans la prévention, notamment des jeunes? Pas facile de parler de sexualité, on vient de le dire, surtout avec le poids des traditions qui est fort dans certaines zones du monde.
Alors heureusement, il y a quand même donc les jeunes savent qu'ils peuvent consulter des médecins, mais je pense que c'est quand même compliqué. Autrement, en fait, il y a les centres de diagnostic, enfin les centres de planning familial, oui. Où effectivement donc les jeunes peuvent se rendre ou de façon anonyme, en fait, ils peuvent réaliser des tests et avoir des traitements.
Mais la difficulté, c'est que les adolescents sont souvent inconscients des risques de contamination et ne se protègent pas systématiquement,
oui,
durant
malheureusement,
leur rapport.
Malheureusement. Nous, effectivement, on a beaucoup de patientes, puisqu'on voit des patientes en tant que gynécologue, qui pour lesquelles on découvre en fait des infections sexuellement transmissibles. Et voilà, c'est pas il n'est pas rare en fait de voir notamment des infections en fait des co-infections, ça veut dire à la fois des infections notamment de chlamydia et de gonocoque associées chez des jeunes patientes.
Docteur Norka, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Est-ce qu'on pourrait donner des conseils à nos auditeurs, parce que les IST, ça ne se guérit pas seul. Enfin, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur
Alors, je
leur
pense les trois messages. Premièrement, c'est la prévention. Donc, on n'aura pas arrêté de le répéter pendant toute l'émission. Donc, c'est le port du préservatif. Et je reprends en fait les propos de ma collègue, donc dès les préliminaires et pour tout, voilà, pour tout le monde. Alors bien sûr, si on fait pas, on est dans un couple et que du coup on a fait ses sérologies, on peut effectivement s'abstenir si effectivement il n'y a pas eu de rapport en dehors du couple. Le dépistage, donc en fait faire des sérologies ou des prélèvements si on a eu en fait des situations à risque, des rapports à risque. Et puis en fait, lorsque le diagnostic a été fait, le traitement, se traiter et donc traiter son partenaire ou ses partenaires.
Merci docteur Norka.
Priorité santé sur RFI.
Nous sommes toujours en compagnie du docteur Catherine Solano. Catherine, on parle souvent de difficultés sexuelles pendant une grossesse. Est-ce qu'une grossesse entraîne forcément des problèmes sexuels?
Ben heureusement, non. La grossesse, c'est justement un moment où, au contraire, la sexualité devrait aller plutôt bien. Parce que si le couple attend un bébé, c'est justement parce qu'ils s'entendent bien, qu'ils aiment faire l'amour ensemble, et le plus souvent parce qu'ils s'aiment. Donc, évidemment, souvent, ça se passe bien. Mais il y a quand même des bouleversements dans le corps et dans le psychisme, et il faut s'adapter pour continuer à s'aimer et avoir du plaisir.
N'empêche que beaucoup de couples nous disent pourtant que c'est un moment difficile. Nous recevons beaucoup de questions d'auditeurs à ce sujet.
Oui, c'est vrai, mais il faut considérer plusieurs choses. C'est que déjà, avant la grossesse, il y a des couples qui ont des petits problèmes sexuels. Et en fait, pendant la grossesse, ça ne s'arrange pas spécialement. Donc déjà... Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand un couple veut un bébé et que ça vient pas tout de suite, souvent, ils ont des rapports sexuels à date fixe, tel jour, etc. Et ça peut finir par devenir un devoir conjugal. Excusez-moi. Et ça, le devoir conjugal, c'est pas érotique. Du coup, ça peut empêcher d'avoir une sexualité spontanée. Et en début de grossesse, on peut être encore un peu bloqué par ça.
Catherine, et pour les couples chez qui tout allait bien avant la grossesse, en tout cas sur le plan sexuel, est-ce que les difficultés peuvent commencer en tout début de grossesse?
Oui, alors il y a des couples où ça va pas très bien sexuellement dès le début de la grossesse. C'est tout simple, c'est souvent dû au fait que la femme est hyper fatiguée. Elle a tout le temps envie de dormir, bon c'est dû aux hormones, hein, pas au fait qu'elle se pense enceinte, hein, c'est les hormones. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont beaucoup de nausées et de vomissements, et forcément, c'est pas très érotique et propice au désir.
Mais ces nausées, ça ne s'arrête... ça s'arrête justement au deuxième trimestre.
Oui, alors justement, le deuxième trimestre de la grossesse, les sexologues disent souvent, c'est la lune de miel de la grossesse. C'est-à-dire que la femme, elle est plus fatiguée, la fatigue s'en va, les nausées disparaissent. En plus, elle a souvent les seins bien épanouis. Excusez-moi. Et elle a un ventre qui a commencé à pousser, mais ça ne la gêne pas encore. Et du coup, sur le plan sexuel, c'est souvent un moment super épanouissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sang qui afflue dans la zone génitale, qui l'oxygène. Et du coup, les réactions sexuelles sont bien meilleures. Il y a beaucoup plus de lubrification, beaucoup plus de sensations. Et on sait même qu'il y a à peu près une femme sur cinq qui a son premier orgasme pendant la grossesse, souvent au moment du deuxième trimestre. Donc c'est très propice.
Et en fin de grossesse, est-ce risqué d'avoir des relations sexuelles, Catherine ?
Alors, pas du tout. En fait, on pensait autrefois que les relations sexuelles en fin de grossesse, ça risquait peut-être de déclencher l'accouchement. On sait maintenant que c'est pas vrai. Alors, bien sûr, si le médecin vous dit éviter les rapports sexuels, il faut l'écouter. Mais autrefois, les médecins disaient très souvent ça. Maintenant, ils le disent encore parfois, mais très rarement. Donc évidemment, il faut l'écouter parce que s'il y a un col ouvert, etc., ça peut être embêtant quand même. En fin de grossesse, sur le plan de la sexualité, le problème, c'est surtout l'inconfort lié au ventre qui est vraiment devenu assez gros ou très gros, ça dépend des femmes. Et alors du coup, les couples sont obligés de changer un peu leur sexualité. Ils vont être obligés de trouver des positions assez confortables et ça introduit souvent un changement. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'il y a des études là-dessus. On sait que spontanément, surtout pendant le dernier mois de grossesse, la plupart des couples ont très peu de rapports sexuels et les espacent beaucoup. Mais il y en a qui en ont jusqu'au dernier jour, souvent quand même beaucoup moins.
On va poursuivre juste un instant de temps. Qu'est-ce que vous voulez réagir sur cette question des rapports sexuels durant la grossesse ?
Alors, effectivement, donc ils ne sont pas contre-indiqués, mais si effectivement le médecin a une réserve par rapport à ça, faut effectivement l'écouter. Donc soit c'est parce qu'il y a effectivement il y a une menace d'accouchement prématuré, donc le col effectivement s'ouvre et raccourcit, et là effectivement on sait que ça peut quand même jouer et aussi entraîner des contractions qui vont encore jouer sur le col, ou notamment s'il y a des soucis par rapport au placenta. Si le placenta donc est bas situé, donc proche du col, le fait qu'il y ait des rapports, ça peut entraîner un saignement. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, le médecin normand doit effectivement bien expliquer ça à la patiente et au couple pour qu'il n'y ait pas de rapport.
Et Catherine, le couple peut avoir peur de ce déclenchement d'accouchement, même si ce n'est pas justifié. Mais est-ce qu'il n'existe pas d'autres peurs sans aucun fondement, comme de faire mal au bébé ?
Oui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se disent que si on fait l'amour, on a peur de faire mal au bébé. En fait, c'est pas du tout le cas. Et puis, il y en a qui se disent, le bébé, j'ai l'impression que le bébé nous observe. Et ça peut évidemment les gêner pendant leur rapport sexuel d'avoir un spectateur, disons.
Mais en pratique, ça ne gêne pas le bébé si ses parents ont des relations
Ben non, pas du tout, parce que le pénis, même s'il va jusqu'au fond du vagin, il ne peut pas atteindre l'enfant parce que déjà, il y a le col de l'utérus et puis il y a le liquide amniotique, donc ça ne va pas du tout le gêner. Il y a même des médecins qui disent, on pense que pendant les rapports sexuels, quand la maman a un orgasme, le bébé ressent un effet jacuzzi. C'est peut-être pour ça qu'on aime le jacuzzi quand on est adulte, ça nous rappelle des bons souvenirs. Bon, c'est logique, c'est plutôt bénéfique pour le bébé, on pense, en plus, parce que si vous voulez, l'enfant ressent quand même les émotions de sa maman pendant la grossesse. Si elle épanouit, heureuse après l'amour et qu'elle est inondée d'hormones de l'orgasme, etc., eh ben, elle se sent bien. Et donc, un bébé qui sent que ses parents s'aiment, même de l'intérieur, sûrement, c'est un point positif.
En résumé, quels conseils donneriez-vous aux jeunes couples pour une sexualité épanouie pendant une grossesse ?
Alors, d'abord, faire l'amour autant qu'on a envie pendant la grossesse. Ensuite, s'adapter quand même au niveau des postures à cause du ventre. Et aussi, des fois, les femmes ont des douleurs dues aux ligaments qui sont étirés parce que le poids du bébé et du ventre tire sur les ligaments. S'écouter surtout, si une posture est gênante, même sans faire mal, mais on n'est pas à l'aise, il faut changer de position. Ensuite, accepter aussi et comprendre qu'il y a forcément des changements sexuels pendant la grossesse, parce qu'il y a des changements physiques, hormonaux, psychologiques, et on est obligé de les prendre en compte. On ne peut pas faire comme si on n'était pas enceinte. Et pour finir, surtout communiquer, dire ce qu'on ressent. Si on se dit, c'est bête, j'ai l'impression que le bébé nous regarde, ça me bloque, il vaut mieux l'expliquer à son partenaire, sinon il ne comprend pas ce qui se passe. Ou si on a mal, ou si on est gêné, il faut bien communiquer, c'est ça qui permet que ça se passe très bien.
Merci pour toutes ces précisions, Catherine. Priorité santé touche à sa fin. Merci à mon équipe, Steven Elsi, Assez Toussamaké, Ophélie Lassen et Juliette Brault. Merci également à mon invité, Dr Joanne Norca, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. Demain, dans Priorité santé, nous répondrons à toutes vos questions concernant justement cette grossesse. Et si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à appeler 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.